Vous écoutez, on lit pour vous.
Témoignage d'un participant du service. Michel Raharisson prend les échecs comme une opportunité d'apprendre. Par Brigitte Filiatro, conseillère en emploi, paru dans l'édition hiver 2025 de la revue Paraquad. Lorsque j'ai débuté les recherches qui entouraient la rédaction de cet article, j'avais une idée bien précise de la direction que je souhaitais prendre. Mon objectif était de décrire le parcours d'un chercheur d'emploi afin de mettre en lumière cette réalité difficile qu'affronte la majorité de nos participants lorsqu'ils se présentent au service d'employabilité. J'avais presque des phrases toutes faites tant je côtoie cette réalité au quotidien. Ce mélange d'appréhension face à l'avenir, de résilience, quelques bribes d'un espoir fragile qui peut si facilement se dissiper face à un échec, mais aussi fleurir lorsque le fardeau de la recherche d'emploi est partagé. C'est donc sur cette image forgée par mon quotidien que j'ai rencontré Michel Raharisson pour la première fois. Il me témoigne de son parcours avec une grande éloquence et une attitude qui révèle une réflexion et une acceptation face aux épreuves de la vie. Nous échangeons longuement et philosophons quelque peu. J'en viens à ne plus pouvoir nier l'évidence. Mon article prendra une toute autre direction de celle que j'avais imaginée. C'est en 2019 que je débute le parcours de M. Raharisson avec Mémo Québec, alors qu'il recherchait un emploi dans le secteur de l'administration des affaires. Vivant avec une atteinte neurologique à la jambe droite, ainsi qu'une scoliose associée aux séquelles de la poliomyélite, il était tout indiqué pour obtenir les services d'aide à la recherche d'emploi d'une association spécialisée auprès des personnes en situation de handicap. Bien que ses démarches auprès de notre service d'employabilité lui aient permis de décrocher un emploi par le biais du programme provincial PDEIPH en 2019, ce fut aussi le début d'une longue série d'épreuves qui l'ont poussé à mettre en pratique des qualités jusqu'ici insoupçonnées. Michel Raharisson me raconte qu'il a été confronté à de nombreuses difficultés entre 2019 et 2024, difficultés d'obtention d'une adaptation de poste, perte d'emploi, pandémie, retour aux études, multiples entrevues qui ne débouchent pas sur un emploi, stress et anxiété, problèmes de sommeil et remise en question. J'écoute le récit de ces épreuves avec empathie. Je sens qu'il se cramponne et qu'il persévère dans l'adversité. Je me demande d'où provient sa flamme. Il me répond dans la plus belle simplicité, citation, « Il faut prendre les échecs comme une opportunité d'apprendre. » Fin de citation. Je réalise que l'acceptation et le lâcher-prise, c'est une philosophie de vie qui se cultive. Face à un refus en entrevue, il ajoute, citation, « Il ne faut pas prendre le rejet de façon personnelle. Il faut revenir aux sources, à la raison pourquoi nous sommes là. Il faut focaliser sur les objectifs et non sur les obstacles. » Fin de citation. Malgré son calme et son ton posé, il m'explique qu'il n'est pas à l'abri de périodes de découragement. Le choix d'un mode de vie sain lui permet d'éviter d'être submergé par le stress. Il médite, il lit et s'instruit. Il tente de dormir à des heures régulières et de manger sainement. Lorsqu'il vit un sentiment de rejet, il ne le prend pas personnellement. Face aux préjugés associés au handicap, il est conscient que certains milieux font preuve d'une moins grande ouverture que d'autres et que, citation, « l'apparence physique fait partie des biais de l'être humain ». Fin de citation. Il mise plutôt sur l'importance de projeter une image de soi positive et de tenter de s'améliorer en tant qu'être humain et travailleur. D'ailleurs, lorsque je lui demande quelques conseils qu'il donnerait à nos chercheurs d'emploi, il me fait état des recommandations suivantes. La recherche d'emploi, ce n'est pas facile. Il faut de la discipline, de la concentration et de la patience. Sur 400 offres, vous aurez peut-être un seul oui. Il ne faut jamais prendre un refus comme étant une finalité. Il faut s'habituer au non. La préparation en entrevue, c'est la force. Il vaut mieux éviter à tout prix de perdre un bon équilibre de vie, car le stress et la fatigue peuvent transparaître lors d'une entrevue. Au moment de notre entretien, nous voyons poindre une lueur d'espoir. Son parcours chaotique de chercheur d'emploi semble s'adoucir par l'apparition d'une nouvelle opportunité professionnelle. Malgré cette accalmie, monsieur n'oublie pas d'où il vient ainsi que toutes les épreuves qu'il a traversées. À la fin de notre rencontre, il me précise que malgré les difficultés que la recherche d'emploi a pu lui causer, il évite de se laisser atteindre par sa situation personnelle. Ce détachement lui a permis de vibrer d'une énergie plus positive lors de ses contacts avec autrui, particulièrement lors des entrevues de sélection. Effectivement, il est facile de se laisser guider par la déprime lorsque nous sommes confrontés à la dure réalité de la recherche d'emploi. S'il y a une leçon que je tire de ma rencontre avec Michel Raharisson, c'est que les conséquences à long terme d'une réalité difficile peuvent varier selon la perception que nous entretenons de celle-ci. Cultiver une philosophie de vie positive face aux échecs serait donc une manière de vivre ces recherches d'emploi avec une plus grande sérénité. C'était « Témoignage d'un participant du service ». Michel Raharisson prend les échecs comme une opportunité d'apprendre. Un texte de Brigitte Filiatro, paru dans l'édition hiver 2025 de la revue Paraquad.
La première Québécoise médaillée aux Jeux olympiques. Un texte de Marc Tison, paru le 1er novembre 2025 dans la presse. La Québécoise Hilda Strike a remporté une médaille d'argent aux 100 mètres en athlétisme aux Jeux olympiques de 1932. On découvrira 50 ans plus tard que la Polonaise ayant décroché l'or montrait des anomalies chromosomiques et anatomiques qui, en d'autres temps, l'auraient disqualifiée. Hilda Strike était donc la femme la plus rapide du monde en août 1932. Le 2 août 1932 se tient la finale du 100 mètres chez les femmes aux Jeux olympiques de Los Angeles dans l'immense stade qui peut accueillir 105 000 spectateurs. Le film de la course montre la Québécoise Hilda Strike qui s'élance dans le troisième couloir, presque au centre de la piste. Elle est la première à bondir hors de ses trous de départ. Les blocs de départ n'existaient pas encore. Mais sur sa gauche, dans le premier couloir, la gigantesque Américaine Wilhelmina von Bremen semble revenir à sa hauteur. La Québécoise tient son rythme et se détache de l'Américaine dans les 20 derniers mètres. Hilda lève les bras en signe de victoire au fil d'arrivée, tendant sur son torse le maillot orné d'une large feuille d'érable. Un peu prématurément, toutefois. Le défilé est déjà étiré par la poitrine de la Polonaise Tanislawa Walasiewicz, deux couloirs sur sa droite, qui l'a coiffée par un cheveu au poteau. Toutes les deux ont réalisé un temps de 11,9 secondes, égalant le record du monde. Il a fallu attendre 20 minutes avant d'apprendre la décision des juges, a raconté Hilda Strike en entrevue avec un journaliste de la presse en 1976. L'or est décerné à l'impassible Polonaise, dont l'austère visage est perpétuellement fermé. Elle est connue sous le nom de Stella Wash aux États-Unis, où elle a émigré quelques mois après sa naissance. N'ayant pas encore la nationalité américaine qu'elle obtiendra en 1947, elle a accepté de courir pour la Pologne. Cinq jours plus tard, Hilda Strike remporte une seconde médaille d'argent au relais 4 x 100 mètres, de nouveau avec une quasi-égalité en tête et deux temps identiques de 47 secondes pour un nouveau record du monde attribué aux Américaines gagnantes de la médaille d'or. Première Québécoise aux Jeux. En 1928, 7 Canadiennes, mais aucune Québécoise, s'étaient rendues à Amsterdam pour les premiers Jeux auxquels les femmes étaient admises comme concurrentes. À Los Angeles, en 1932, à 21 ans, Hilda Strike est l'une des trois premières Québécoises à participer aux Jeux olympiques avec une autre sprinteuse, Mary Van der Leet, et la fleurettiste Joanne Archibald. La délégation canadienne compte 108 hommes et 19 femmes. les athlètes canadiennes sont populaires à Los Angeles. Elles sont reçues au studio MGM par la célèbre actrice Norma Shearer, elle-même née à Montréal. Le Los Angeles Examiner écrit que « Les Canadiennes sont sans aucun doute les plus jolies et les plus saines d'apparence parmi toutes les filles venues participer à la compétition », ajoutant quelques appréciations supplémentaires qui ont peu à voir avec leur qualité athlétique. Sur les photos qui montrent côte à côte les trois médaillées du 100 mètres de Los Angeles, Hilda Strike paraît minuscule. À 1,59 m, elle arrive à l'épaule de Stanislawa Walasiewicz, qui mesure 1,74 m. Encore plus grande, l'Américaine Wilhelmina von Bremen atteint 1,82 m. C'est peut-être justement le contraste entre sa taille et sa vitesse qui avait attiré l'attention d'une experte 3 ans plus tôt sur un terrain de balle de Montréal. Une sportive. Hilda Strike est née le 1er septembre 1910 dans le quartier Côte-Saint-Paul au sein d'une famille sportive. Son père, Frédéric Strike, hockeyeur professionnel à temps partiel, avait remporté en 1904 le premier championnat de l'International Professional Hockey League avec les Miners de Calumet, petite ville du Michigan. « J'ai toujours su courir », confie-t-elle à David McDonald dans son livre « For the Record, Canada's Greatest Woman Athlete », paru en 1981. Ça m'est venu naturellement. Je me souviens que ma première expérience de course à pied remonte au pique-nique annuel de l'école du dimanche. Sportive aussi polyvalente qu'accomplie, Hilda pratique la natation, le patinage, le badminton, le basketball, le volleyball, le ski. Et surtout, la balle molle. Entre deux manches, les joueuses de son équipe font des sprints pour distraire les spectateurs. C'est à cette occasion qu'elle est remarquée en 1929 par une journaliste du Montreal Daily Star, Myrtle Cook. La journaliste s'y connaît. En 1928, Cook était membre du quatuor des Canadiennes qui avait remporté la médaille d'or dans le 4x100 mètres aux Jeux olympiques d'Amsterdam avec un record du monde. Arrivée à Montréal en 1929 pour épouser le journaliste Lloyd McGowan, elle tient depuis lors la rubrique « In the Woman's Spotlight » dans le Montreal Daily Star. Myrtle Cook convainc Hilda Strike de se joindre au Canadian Ladies Athletic Club qu'elle vient de fonder. Hilda Strike saute sur l'occasion et sur la piste. Le 29 septembre 1929, la presse fait déjà état de sa deuxième place à la finale du 100 mètres au handicap d'automne de la Montreal Amateur Athletic Association, MAAA. Durant la belle saison, les athlètes du club s'entraînent sur le terrain de la MAAA rue Sainte-Catherine à Westmont. En hiver, elles empruntent les corridors supérieurs du forum, d'où elles sont chassées par les placiers à l'arrivée des premiers spectateurs, les soirs de matchs de hockey. C'était les années dures pour les athlètes amateurs. Nous devions organiser des parties de cartes, la vente de pâtisseries, faire preuve de toutes sortes d'initiatives pour pouvoir pratiquer notre sport, car rien, absolument rien ne nous était donné, racontera-t-elle à la presse en juillet 1976, à l'occasion des Jeux olympiques de Montréal. Hilda n'abandonne pas la balle molle pour autant. En mai 1931, la joueuse de premier but est membre de l'équipe montréalaise qui se fait étrier 23-5 par une équipe de Toronto dans le match inaugural de la Major Ladies Softball League. En mai 1932, elle est championne du Québec sur 100 mètres avec un temps de 12,2 secondes, équivalent à celui de la médaillée d'or à Amsterdam en 1928. Aux essais tenus les 9 et 10 juillet 1932 à Hamilton, elle est sélectionnée dans l'équipe olympique canadienne. Elle prend le train pour Los Angeles où 2 médailles l'attendent. Athlète de l'année. En décembre 1932, Hilda Strike est nommée athlète féminine de l'année au Canada et athlète la plus populaire de Montréal. Aux Jeux de l'Empire britannique en 1934, elle gagnera encore 2 médailles d'argent dans le 100 verges et le relais medley 440 verges. Elle cesse la compétition et se marie en 1935 avec le Montréalais Fred Sisson. Mais son 100 mètres de 1932 va ressurgir 45 ans plus tard dans l'actualité. Surprise. Le 4 décembre 1980, Stella Wash, âgée de 69 ans, est abattue dans le stationnement d'un centre commercial de Cleveland par deux voyous qui tentent de lui dérober son sac à main. Encore remarquablement forte, elle a voulu saisir le revolver dont le coup est parti. Sa mort violente entraîne une autopsie. La veille de ses funérailles, une station de télévision de Cleveland annonce que l'athlète la plus remarquable de son époque était en réalité un homme soulevant l'ire de la communauté polonaise de la ville. Dans son rapport rendu public en janvier 1981, le coroner Samuel Gerbert est plus nuancé. Sans se prononcer sur son genre, sinon pour rappeler qu'elle a vécu comme une femme toute sa vie, il constate que Walsh n'a ni utérus, ni ovaire, ni vagin, mais un pénis sous-développé et non fonctionnel. L'analyse génétique révèle qu'elle montrait une anomalie chromosomique appelée mosaïcisme qui lui avait laissé des organes génitaux sexuellement ambigus. Cet état aurait pu entraîner sa disqualification, mais les tests génétiques ne sont apparus qu'aux Jeux olympiques de 1968. La médaille d'or du 100 mètres de 1932 devrait-elle être attribuée à Hilda Strike? Les petits-enfants d'Hilda Strike interpellent, en vain, le Comité international olympique et la Fédération internationale d'athlétisme amateur, mais la principale intéressée n'entreprend aucune démarche directe. Jeux de Los Angeles, 1984. Le retour des Jeux olympiques à Los Angeles en 1984 sera l'occasion de ressasser l'affaire Walsh. Je voyais bien qu'elle était plus grosse et plus forte que les autres et qu'elle avait les manières d'un homme. Mais je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait en être un, confie Hilda Strike au journal The Gazette en août 1984. La Fédération internationale d'athlétisme amateur refuse de lui accorder rétrospectivement la médaille d'or, mais le 6 août 1984, son secrétaire général, John Holt, reconnaît qu'elle a tout à fait le droit de se considérer comme la femme la plus rapide du monde à l'époque. Le même jour, la plongeuse Sylvie Bernier devient la première Québécoise à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques. Fin de course. Hilda Strike demeure la seule Québécoise à avoir gagné une médaille en athlétisme aux Jeux olympiques. Ces exploits ne sont peut-être pas étrangers à la création, en 1934, de la Fédération québécoise d'athlétisme, alors appelée Province of Quebec Track and Field Association. Lors de la célébration du 50e anniversaire de sa fondation, le 24 novembre 1984, une médaille d'or symbolique lui est attribuée. Alitée, elle fait savoir par son mari que jamais un présent ne lui a fait autant plaisir. Elle franchit l'ultime file d'arrivée le 9 mars 1989. C'était la première Québécoise médaillée aux Jeux olympiques. Un texte de Marc Tison, paru le 1er novembre 2025 dans la presse.
Axia Service, présentation d'une entreprise adaptée. Un texte de Pauline Carrez, agente de développement chez Axia Service, paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165 de la revue Paraquad. En 1975, Simone Charbonneau, alors directrice d'un foyer d'accueil à Pointe-aux-Trembles, identifie un besoin criant. Les résidents, résidentes, souffrent souvent d'isolement. Pour y remédier, elle met en place une initiative, proposer à ses résidents-résidentes des petits travaux rémunérés leur permettant ainsi de s'occuper tout en acquérant une première expérience professionnelle. Encouragées par le succès de cette démarche, elles souhaitent proposer ce type d'occupation aux foyers environnants en les rassemblant sous un même toit, créant ainsi une véritable communauté de travail, tout en permettant aux résidents-résidentes de créer des liens sociaux. Cette initiative novatrice, soutenue par divers paliers du gouvernement provincial, donne naissance au Centre de transition pour adultes, le Transit Inc. 50 ans plus tard, après plusieurs changements de nom, cette vision continue d'inspirer Axia Service. La mission d'Axia est toujours teintée de la vision de Simone Charbonneau, offrir des emplois de qualité aux personnes vivant avec des limitations. Financée en partie par le Programme de subvention aux entreprises adaptées, PSEA, d'Emploi Québec, Axia Service est une entreprise adaptée d'économie sociale et un organisme à but non lucratif. Nous comptons actuellement près de 700 employés dont 76% vivent avec des limitations variées, troubles de santé mentale, des troubles du spectre de l'autisme, ainsi que des déficiences physiques, sensorielles ou auditives. Répartis dans trois secteurs d'activité, nous offrons aux entreprises des services d'emballage, alimentaire et industriel, d'entretien ménager commercial et un service de gardiennage. Les deux usines d'emballage d'Axia sont situées à Montréal et à Laval, et l'entreprise propose ses services sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal. En tant qu'entreprise adaptée, le Programme de subvention aux entreprises adaptées, PSEA, implique une collaboration étroite avec des services spécialisés en main-d'œuvre, SSMO, tels que Moelle Épinière et Motricité Québec. Ils possèdent l'expertise et le savoir-faire nécessaires pour identifier les profils correspondant aux postes que nous offrons. Ainsi, si le SSMO identifie une personne comme ayant le profil de devenir préposé à l'emballage, préposé en entretien ménager ou agent-agente de sécurité, un comité RH sera organisé pour évoquer son parcours, ses projets et ses besoins d'accompagnement afin de valider son intégration et préparer son entrée dans l'équipe. Afin de favoriser l'intégration et de permettre à nos nouvelles employés de se sentir confiants-confiantes, chaque personne intégrant l'entreprise dans un de nos trois départements bénéficie d'une académie. D'une durée allant de 12 jours à un mois selon le département, cette première étape de l'aventure Axia vise à enseigner les tâches, transmettre les consignes, permettre aux employés de pratiquer et de créer une cohésion à travers le groupe de nouvelles employés. Au-delà de cette phase d'intégration, nous veillons à ce que nos employés bénéficient d'un accompagnement personnalisé et soutenu en collaboration étroite avec les services spécialisés en main-d'œuvre, SSMO. Ainsi, une personne travaillant chez Axia dispose de plusieurs ressources dédiées pour l'écouter ou l'aider et en fonction de ses besoins. Ces ressources travaillent ensemble au même objectif, permettre à chacun chacune de développer pleinement son potentiel et de s'épanouir au sein de l'entreprise. Enfin, nous veillons à ce que les gestionnaires et le personnel administratif rejoignant Axia incarnent et partagent nos valeurs, l'accompagnement, l'inclusion, la dignité, l'excellence et de respect qui sont au cœur de notre mission. Nos employés sont les meilleurs ambassadeurs, ambassadrices d'Axia. Comme une image vaut mille mots, ce sont les pas de danse observés lors de notre party de Noël, les éclats de rire entendus pendant la sortie à la cabane à sucre ou les accolades lors de la sortie aux pommes qui nous donnent le sentiment de contribuer positivement à leur sentiment d'accomplissement et à renforcer leur confiance en eux et en elles. Ce sentiment d'être utile à nos employés se renforce à chaque visite dans nos usines, lors des rencontres sur les contrats ou à travers nos échanges avec eux, avec elles. Nous sommes privilégiés de travailler avec des personnes résilientes, déterminées et, presque, toujours de bonne humeur. Nous sommes fiers de leurs accomplissements et les remercions de leur engagement à donner leur 100% pour montrer que la différence peut être une véritable force. Infos et contacts https://www.axiaservice.com. C'était Axia Service, présentation d'une entreprise adaptée, un texte de Pauline Carrez paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad.
Un outil web pour aider à choisir son milieu de vie. Un texte de la rédaction paru le 22 août 2025 dans Virage. E-M-I-L-I-A, Emilia, un outil web conçu pour accompagner les personnes aînées dans le choix de leur milieu de vie et auquel la FADOC a contribué, est désormais accessible au grand public. Emilia signifie « explorer son milieu de vie aîné ». Cet outil regroupe des renseignements utiles, des grilles d'aide à la décision, des guides étape par étape ainsi que des témoignages audio. Plus de 60 personnes aînées et leurs proches ont pris part à toutes les étapes ayant mené à l'élaboration de l'outil, tandis que 160 autres l'ont testé en conditions réelles. Plusieurs membres de la FADOC y ont d'ailleurs apporté leur contribution. En bref, Emilia se décline en trois temps, chacun correspondant à une étape clé de la trajectoire domiciliaire. Guillemets au début, guillemets partir ou rester et guillemets partir où. Des contenus riches et détaillés abordent 17 thèmes allant des crédits d'impôt favorisant le maintien à domicile aux conseils pour inventorier ses biens en passant par des pistes pour entamer le dialogue avec ses proches. Les informations pratiques incitent les personnes aînées à faire le point sur leur situation actuelle, à se projeter dans l'avenir et à intégrer leurs proches dans la réflexion afin d'éviter des décisions prises dans la précipitation. Rappelons que la FADOC, région Estrie, ainsi que la FADOC provinciale, ont soutenu ce projet avec constance depuis son lancement en 2019. Pour découvrir l'outil, consultez le site web outilemilia.ca. J'appelle outilemilia.ca. Je répète outilemilia.ca. C'était un outil web pour aider à choisir son milieu de vie. Un texte de la rédaction paru le 22 août 2025 dans Virage.